Une semaine d'actualité, Chantal Leroux.
Bonjour, bienvenue, nous sommes ensemble pour revivre 7 jours d'événements couverts par les journalistes et les correspondants de RFI dans le monde. Et pour commenter cette semaine d'actualité qui va nous emmener de Rome à Ouagadougou en passant par New York, nous avons le plaisir d'accueillir Florent Piton, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur en histoire à l'université Paris Diderot et au CESMA, le centre d'études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques, et vous publiez « Le génocide des Tutsis du Rwanda » aux éditions La Découverte. Il faut rappeler le drame vécu par ce petit pays d'Afrique de l'Est, 800 000 à 1 million d'hommes, de femmes et d'enfants exterminés d'avril à juillet 94 uniquement parce qu'ils étaient Tutsis, sans oublier les milliers de Hutus qui s'opposaient au massacre et qui ont subi le même sort. 24 ans après, la question du génocide reste étrangement sensible, entre les polémiques sur les chiffres, voire le révisionnisme, les responsabilités, la passivité de la communauté internationale ou encore l'implication de la France. Vous n'avez pas eu peur, Florent Piton, de prendre des coups en vous attaquant à pareil sujet ?
Des coups, j'en prendrai peut-être, mais sur ce genre de sujet, avec une dimension mémorielle extrêmement importante, c'est inévitable. L'important, il n'est pas là. L'important, c'est que près de 25 ans après cet événement, on ne disposait pas de livres de synthèse, des travaux importants qui ont été menés, et c'est à ça que cet ouvrage sert.
Alors, vous avez beaucoup lu pour écrire cette synthèse. Il y a 14 pages de références bibliographiques à la fin de votre livre. Vous êtes plongé dans les archives localement, sur place aussi. Vous êtes allé au Rwanda pendant 10 mois.
Alors, pour écrire ce livre, j'ai d'abord effectivement lu, non pas toute la bibliographie existante, ce serait impossible, mais les travaux qui me paraissent les plus importants, c'est l'objet d'une synthèse, mais je me suis efforcé aussi de rendre compte du travail de terrain que j'ai pu mener au Rwanda, et c'est ce qui explique que dans le livre, il y ait une quantité relativement importante de documents d'archives, de sources de première main, l'idée étant de montrer aux lecteurs et au public qu'il est possible de travailler sur cet événement à partir d'archives au Rwanda.
Alors, qu'est-ce qui fait la spécificité du génocide rwandais ?
Ce qui fait la spécificité du génocide des Tutsis au Rwanda, je crois, c'est que c'est un génocide commis dans l'intimité des relations de voisinage. Victimes et bourreaux partageaient une proximité au quotidien sur les collines avant le génocide, mais également, pour une bonne part, après le génocide.
Alors, vous commencez votre livre en remontant en arrière jusqu'au Rwanda précolonial du 15e siècle. C'était crucial d'expliquer qu'on ne peut pas dire que le génocide résulte d'un antagonisme ethnique séculaire. C'est un raccourci pratique, mais faux.
C'est un raccourci, effectivement, complètement faux. Il me paraît que pour écrire correctement cette histoire-là, il faille écrire une histoire sur le temps long. Sur le temps long, ça ne veut pas dire considérer que depuis des siècles et des siècles, Hutu et Tutsi étaient en conflit. Mais c'est au contraire montrer les évolutions, les soubresauts d'une histoire des relations entre Hutu et Tutsi qui empruntent des parcours divers.
Alors, il est impossible de résumer des siècles d'histoire en 2 minutes, mais qu'est-ce qui distinguait avant la colonisation les Hutus des Tutsis ?
Les termes Hutu et Tutsi existent avant la colonisation, mais ils n'ont pas le sens qu'on leur donne aujourd'hui. Si je simplifie, les Tutsis sont plutôt des éleveurs, singulièrement des éleveurs de vaches, tandis que les Hutus sont plutôt des agriculteurs. Mais entre ces deux groupes, il n'y a pas des conflits permanents, et surtout, il était possible de passer d'un groupe à l'autre. Et c'est ça qui va changer.
Voilà, vous expliquez par exemple qu'un riche propriétaire de bétail Hutu pouvait devenir Tutsi.
Exactement.
Sept jours dans le monde.
Florent Piton, on va continuer tout à l'heure à parler de votre livre, hein, Le génocide des Tutsis du Rwanda, qui vient de paraître aux éditions La Découverte. Mais je vous propose maintenant de dérouler le fil de l'actualité de la semaine, avec d'abord les propos du pape François concernant l'homosexualité et l'emploi d'un mot, psychiatrie, qui a déclenché une vague d'indignation et montre combien la question homosexuelle reste un sujet délicat au sein de l'Église catholique. Au Vatican, les précisions d'Éric Senanque.
Le pape François, qui n'avait pas évoqué les couples homosexuels et leurs enfants lors de la rencontre mondiale des familles de Dublin, s'est rattrapé dans l'avion qui le ramenait d'Irlande, mais ses propos sèment pour le moins le trouble. Quand l'homosexualité se manifeste dès l'enfance, a-t-il dit, il y a beaucoup de choses à faire par la psychiatrie pour voir comment sont les choses. C'est autre chose quand cela se manifeste après 20 ans. Soigner donc les tendances homosexuelles semble donc une voie à explorer pour François, qui fait écho à certains discours dans l'Église, voyant l'homosexualité comme une pathologie. Le souverain pontife a aussi expliqué qu'un parent ne devait pas condamner un enfant homosexuel, qu'il fallait dialoguer avec lui, le comprendre, lui faire de la place. « Je ne dirai jamais que le silence est un remède », a-t-il précisé. Ignorer son fils ou sa fille qui a des tendances homosexuelles est un défaut de paternité ou de maternité. Des mots plus conformes à son célèbre « Qui suis-je pour juger ?» prononcé déjà à bord d'un avion, c'était il y a 5 ans, de retour des Journées mondiales de la jeunesse au Brésil.
Florent Piton, est-ce que vous avez été choqué par ces propos du pape François ou est-ce que c'est une maladresse de langage qu'il faut relativiser ?
À titre personnel, c'est des propos qui me choquent, oui. Et je crois, alors c'est pas une analyse, c'est plutôt une réaction, mais une réaction en tant que jeune historien, ce qu'on nous apprend, c'est qu'il faut replacer des propos dans leur contexte. Et je crois que le contexte de ces propos du pape, c'est un rapport pour le moins compliqué de l'Église en tant qu'institution et d'une partie de ses membres avec l'homosexualité.
L'Allemagne sous le choc après les images de chasse aux migrants dimanche dans les rues de Chemnitz, dans l'ex-RDA, par des militants d'extrême droite. À l'origine de ces violences, la mort d'un Allemand de 35 ans, poignardé par un réfugié irakien lors d'une altercation. Un réfugié syrien est également suspecté. Lundi, des néo-nazis faisant le salut hitlérien ont défilé à Chemnitz. Et mardi, c'est dans la ville de Dresde que l'extrême droite est descendue dans la rue. Le reportage de Nathalie Versieux.
Mathias, un comptable de 54 ans qui ne rate pas une manifestation du parti d'extrême droite AFD depuis 2 ans et demi, considère qu'il en va de sa responsabilité que de dénoncer la politique migratoire irresponsable d'Angela Merkel.
Je dois faire preuve de sens et de responsabilité pour les autres. Moi, je vais bien. Bien sûr, je pourrais m'en moquer, mais c'est impossible. Je dois faire preuve de responsabilité envers le peuple. Je pourrais préférer m'en moquer.
À ses côtés, Heiko Müller, 62 ans, fait partie des organisateurs de la manifestation de Dresde. Lundi, il était à Chemnitz et se dit écœuré par l'image renvoyée par la presse des débordements de l'extrême droite.
Nous sommes là parce qu'un jeune homme a été assassiné à Chemnitz. La presse ne le mentionne que brièvement pour ne souligner le fait que, soi-disant, plein de nazis étaient là. Il n'y a pas un seul nazi, pas un seul de nous n'est nazi. Nous sommes tous des citoyens normaux de la ville de Dresde.
À Dresde, les manifestations de mardi se sont déroulées de façon pacifique, mais le Land de Saxe, qui a voté à 27% pour le parti d'extrême droite AFD en septembre dernier, est aussi en tête pour le nombre des agressions contre les étrangers et les incendies contre des foyers de réfugiés.
L'Amérique a perdu le week-end dernier celui qu'elle considérait comme un héros de la guerre du Vietnam, John McCain. Le sénateur de l'Arizona, ancien candidat à la Maison-Blanche en 2008 contre Barack Obama, s'est éteint à 81 ans. C'est une grande figure de la politique américaine qui disparaît, mais aussi l'un des rares élus républicains à s'être opposé à la politique de Donald Trump. À New York, Grégoire Pourtier.
Les Américains se préparaient au décès de John McCain depuis vendredi, on pourrait même dire depuis plus d'un an, puisque atteint par un cancer, il n'avait jamais caché qu'il lui serait très difficile d'échapper cette fois à la mort. John McCain, c'est l'archétype du héros américain. À la fin des années 60, lors de la guerre du Vietnam, son avion est abattu par un missile. Il est blessé, torturé, emprisonné pendant 5 ans, mais il s'en sortira et entamera bientôt une brillante carrière politique. Élu à la Chambre des représentants dès 1982, il était surtout sénateur républicain de l'Arizona depuis 1986. En 2008, il est candidat à la présidence contre Barack Obama, mais il est battu. Il était pourtant revenu en force sur le devant de la scène médiatique depuis l'émergence de Donald Trump. Car McCain était le principal élu républicain, si ce n'est le seul, à dénoncer les manières et surtout les politiques de l'actuel président américain. Ainsi, ces 2 dernières années marqueront très certainement son héritage, celui d'un homme fidèle à ses valeurs qui a refusé de se laisser emporter par la vague nationaliste et populiste comme tant de ses collègues.
Florent Piton, à partir de quand les différences de mode de vie, de statut social entre Hutu et Tutsi vont-elles devenir des critères de racialisation au Rwanda ?
avec l'époque coloniale. La racialisation dont je parlais tout à l'heure, elle a des conséquences très concrètes pour les populations, pour l'accès aux postes administratifs, notamment aux postes de chef, de sous-chef, pour l'accès aux écoles secondaires également. Alors bien sûr, tous les Tutsis favorisés dans ce cadre colonial ne profitent pas de ces privilèges. La majorité d'entre eux sont ce que Léon Sor appelle des petits Tutsis. Mais s'instille progressivement l'idée que les Tutsis dans leur ensemble profiteraient de privilèges dus à la colonisation quand les Hutus en seraient exclus.
Alors ce sont, d'après vous, les théories raciales des colons qui ont abouti à la création de ce que vous appelez le mythe amitique et le mythe bantou, c'est-à-dire les Tutsis rangés dans la catégorie des amites, les Hutus dans celle des bantous, et les premiers dominant les seconds.
Le mythe amétique et le mythe bantou, c'est en fait le cadre global de la manière dont on pense les races dans une partie de l'Afrique. On considère qu'il y aurait les vrais, et je mets des guillemets au terme que j'ai employé tout de suite, les vrais nègres, que seraient les bantous, et des, encore une fois, je mets des guillemets, nègres supérieurs, qui seraient les hamites, venus des régions du Nord.
C'est-à-dire Égypte, Éthiopie.
Égypte, Éthiopie, Mésopotamie, Asie, Europe, et j'en passe.
Tandis que les bantous seraient donc les indigènes.
Les autochtones, en tout cas.
Les autochtones.
Tout à fait.
Qui auraient défriché les collines rwandaises.
Premier défricheur des collines rwandaises et asservi par des populations venues d'ailleurs, qui seraient les Tutsis rangés dans la catégorie des hamites.
Et alors, ce classement racial s'accompagne de théories sur le physique et sur les traits de caractère.
Bah, il faut bien sûr distinguer les populations. Et alors pour ça, bah, y a des critères tout trouvés. Critères physiques, largement fantasmés bien entendu, et critères intellectuels, moraux. Alors les Tutsis ont la peau plus claire, ont les cheveux moins crépus, puis sont aussi plus intelligents, par exemple.
Plus grand,
plus fin, le nez plus aquilin. En fait, ils ont une beauté qui se rapproche d'une beauté prétendument caucasienne, européenne.
Et alors, vous diriez que ce sont les colons belges, qui ont donc succédé aux colons allemands, qui ont renforcé le fonctionnement féodal de la société rwandaise?
Cette idée que la société rwandaise serait féodale, elle n'est pas seulement implantée par les Belges, mais aussi par les missionnaires. On va penser la société rwandaise précoloniale en termes de féodalité. On va calquer, en fait, ce que l'on connaît de la féodalité européenne sur la société rwandaise.
Quelles conséquences a eu l'apparition des premières cartes d'identité portant l'inscription Tutsi, Hutu ou Toi, hein, Toi, parce que c'est la troisième ethnie du Rwanda.
Ben, les cartes d'identité, en fait, à l'époque, il s'agit plutôt de livrets d'identité, sont introduits dans les années 30. Et sur ces livrets d'identité, on va mentionner ce qu'on appelle à l'époque la race, Hutu, Tutsi, Hutua. Et ça a, je crois, deux conséquences. La première, c'est que ça fait de cet élément identitaire quelque chose de primordial, d'extrêmement important. Et puis la seconde, c'est que ça fige ces identités. On ne peut plus passer d'une catégorie à une autre, ce qui était possible auparavant.
Une semaine d'actualité, Chantal Leroux.
L'armée birmane accusée de génocide et de nettoyage ethnique lundi. Un rapport d'enquête explosif des Nations Unies, publié alors que débutait il y a un an l'exode vers le Bangladesh de quelque 700 000 Rohingyas fuyant les violences de l'armée birmane. Dans les camps installés à la frontière, les réfugiés réclament justice. Le reportage à Kutupalong d'Elisa Hunt.
We are Rohingyas, we want to go back our camp.
Ce chant sort de la bouche d'un petit garçon de 10 ans, Ferdouz. Nous sommes des Rohingyas, dit-il, nous sommes des êtres humains. La seule chose dont nous avons besoin, c'est de nos droits.
Mon pays me manque beaucoup, j'étais heureux là-bas, mais l'armée a tué nos pères et violé nos mères. On a besoin de justice avant de rentrer.
Les autorités birmanes ont toujours nié les accusations de violence contre les civils Rohingyas. Une mission d'enquête des Nations Unies n'a jamais été autorisée dans l'ouest du pays. Pourtant, selon Mayu Ali, un réfugié de 26 ans, c'est bien de la communauté internationale que doit venir la justice.
La seule manière de faire taire les démentis du gouvernement birman, c'est que la communauté internationale augmente sa pression encore et encore. Je me sens triste quand je vois que des missions d'enquête ne peuvent pas entrer dans le pays. La vérité est encore dans les ténèbres.
Et la pression internationale devrait s'intensifier dans les prochains jours. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit pour parler de la crise des Rohingyas ce mardi. Dans le camp de Koutoupalong, Elisa Interfi.
Attente déçue, le Conseil de sécurité s'est réuni mardi sur le sujet sans qu'il en sorte la moindre décision. Florent Piton, pourquoi est-ce que la communauté internationale tarde toujours autant à prendre la mesure d'un génocide ?
Ce qui me paraît intéressant ici, c'est justement la qualification de ce qui est en train de se passer en Birmanie. Tantôt on parle de génocide, tantôt on parle de nettoyage ethnique. Ce sont quand même deux phénomènes profondément différents. Le génocide, il s'agit d'exterminer une population. Le nettoyage ethnique, il s'agit de l'expulser. C'est une logique territoriale, en quelque sorte. Et la confusion entre ces deux termes, elle s'observe dans la crise des Rohingyas, où parfois, au sein du même article, on voit le vocabulaire fluctuer. Et ça me paraît révélateur aussi d'une évolution du droit international, dans des jugements au Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, dans un rapport également concernant la Centrafrique, il y a quelques années, on en venait à considérer que peut-être le nettoyage ethnique serait non pas un génocide, mais un acte génocidaire, correspondrait à des actes génocidaires.
Alors en 1994, alors que les télévisions du monde entier diffusaient les images des massacres qui se déroulaient au Rwanda, on se souvient des flots de cadavres charriés dans la rivière Nyabarongo, il va falloir attendre combien de temps pour que le mot génocide soit prononcé à l'ONU ?
À l'ONU, il me semble que la première mention officielle du génocide pour caractériser ce qui se passait au Rwanda, c'est à la fin du mois de mai.
Alors que Libération employait le mot génocide, le journal Libération employait le mot génocide dès le 12 avril.
Oui, et donc beaucoup plus tôt. Et là encore, tous les journaux n'emploient pas ce terme au même moment. Libération fait un peu figure de précurseur.
Et Kofi Annan, qui est décédé le 18 août, il était alors chargé des opérations de maintien de la paix. Il a dit qu'il gardait comme une cicatrice l'échec de la communauté internationale au Rwanda. À l'époque, pourquoi est-ce qu'il n'a pas réagi, par exemple, aux messages alarmants, aux messages demandant des renforts envoyés à New York par Roméo Dallaire, qui commandait la mission d'observation de l'ONU au Rwanda ?
Sans doute en partie, parce qu'au sein du Conseil de sécurité, les États-Unis et le Royaume-Uni, entre autres, freinent des cas de fer pour une intervention beaucoup plus directe. Tant et si bien que le câble du 11 janvier du général Dallaire dont vous parlez n'a aucune suite.
Qu'est-ce qu'il disait dans ce câble, le général Dallaire ?
Le général Dallaire, le 11 janvier, il fait état d'informations qu'il a obtenues auprès d'un membre de l'Intelamwe, la milice du parti présidentiel, évoquant les entraînements de cet Intelamwe et la préparation de massacres massifs de Tutsi à Kigali.
Donc ça, c'était le 11 janvier et le génocide a commencé le 6 avril.
Le 6 avril, on est donc 3 mois avant.
Et je voudrais citer une phrase dans votre livre que vous reprenez de Roméo Dallaire. « Peut-être que j'ai argumenté, mais je n'ai pas convaincu. »
Jours en Afrique.
Direction Dakar, où la Cour d'appel a confirmé jeudi la condamnation du maire de la capitale sénégalaise, Khalifa Sall, à 5 ans de prison ferme pour escroquerie. La défense va se pourvoir en cassation. Khalifa Sall, candidat à la présidentielle de 2019, reste éligible tant que tous les recours devant la justice ne sont pas épuisés. À Dakar, Margot Chevance.
Tout dans cette décision est politique. C'est ce que défend Mordicus, le clan de Khalifa Sall, qui ne s'avoue pas vaincu pour autant. Maître El Mamadou Ndiaye, l'un des nombreux avocats du maire de Dakar, voit dans ce délibéré une manœuvre de plus du régime pour écarter son client de la présidentielle.
Nous allons continuer le combat judiciaire. Il y a Khalifa Ababakar Sall qui a déclaré sa candidature, mais qu'aujourd'hui, le camp d'en face ne veut pas de cette candidature. Il se sert aujourd'hui de la justice pour l'éliminer, et je pense que c'est ce qui est regrettable.
Un argument que les avocats de l'État balaient d'une main. Les infractions ne sont plus à prouver. La Cour d'appel exige en plus que Khalifa Sall, avec 3 de ses co-accusés, paye collectivement à l'État des dommages et intérêts. Une victoire pour Maître Mabouakar Cissé.
On a alloué à l'État du Sénégal la somme de 1,830 milliard, qui est le montant détourné. Donc c'est une satisfaction pour nous. Mais par contre, nous avions également demandé la réparation du préjudice moral que l'État du Sénégal a subi, mais la Cour n'a pas estimé nécessaire d'y faire droit.
Si le maire de Dakar n'est pas encore privé de ses droits politiques, une condamnation par la Cour suprême anéantirait définitivement ses ambitions politiques pour le scrutin de février prochain.
Autre candidat bloqué dans ses ambitions présidentielles, Karim Ouad. Le fils de l'ancien président contestait le rejet de son inscription sur les listes électorales. La Cour suprême de Dakar s'est déclarée incompétente pour statuer sur le sujet. Karim Ouad, qui vit en exil au Qatar, n'a plus de recours juridique possible. En République démocratique du Congo, les humanitaires ont commencé jeudi à distribuer des vivres aux personnes touchées par le virus Ebola dans l'est du pays, où l'épidémie a déjà fait 77 morts. Le nombre de cas confirmés diminue, mais pas l'inquiétude des soignants, car certains malades se cachent avec tous les risques de transmission que cela implique. L'évêque du diocèse de Beni-Boutembo s'est inquiété au micro de Florence Maurice des messages délivrés par certains pasteurs qui, d'après lui, intoxique la population.
Non, il faut qu'ils renoncent à cacher le malade parce que ça fait beaucoup plus de mal que de bien. On n'a aucun intérêt à cacher le malade, surtout dans cette zone où ils peuvent être pris à charge à temps. Donc il faut qu'ils ne traînent pas et qu'ils ne soient pas intoxiqués par des messages d'ordre même soi-disant religieux qui pourraient empêcher les gens d'aller et être pris à charge promptement. Ouais.
Parce qu'il y a certains pasteurs qui répandent l'idée selon laquelle c'est du mauvais sort.
Bon, ce sont des faux pasteurs. Et donc il ne faut pas commencer à, à mêler les religieux et les problèmes de la médecine. Les pasteurs doivent essayer de donner la vraie et la bonne information.
La situation sécuritaire se dégrade au Burkina Faso. Les attaques djihadistes sont de plus en plus fréquentes dans le nord et l'est du pays. La dernière en date, mardi à Pama, a coûté la vie à 7 membres des forces de défense et de sécurité. À Ouagadougou, Yaya Boudani.
L'attaque s'est déroulée aux alentours de 1h dans la nuit du lundi au mardi. Un groupe d'assaillants non encore identifiés selon un communiqué du gouvernement a pris d'assaut la brigade territoriale de gendarmerie de Pama à une centaine de kilomètres de Fadangourma à l'est du Burkina Faso. Un véhicule des forces de défense et de sécurité appelé en renfort a sauté sur un engin explosif improvisé. Le bilan selon le gouvernement est de 7 agents des FDS tués et plusieurs blessés, dont 2 dans un état instable. Aucun groupe n'a encore revendiqué cette attaque. Une opération de ratissage des forces de défense et de sécurité était en cours dans cette région depuis le 10 août dernier. Plusieurs présumés terroristes auraient été neutralisés, des dizaines de suspects également interpellés et du matériel saisi. Selon notre source, il y a eu parfois de violents accrochages entre les forces burkinabées et les présumés terroristes. C'est 48 heures après la fin de l'opération qu'intervient cette attaque contre les forces de défense et de sécurité burkinabées qui a fait officiellement 7 morts.
Jeudi, c'est un rapport accablant sur la situation au Mali que les Nations Unies ont publié. Les experts de l'ONU y dénoncent l'implication des signataires de l'accord de paix d'Alger dans des attaques terroristes et dans la criminalité organisée dans le nord du Mali. Des faits qui compromettent indirectement la stabilisation du pays. Clémentine Pavlotsky.
Les accusations du groupe d'experts indépendants de l'ONU sur le Mali sont accablantes. Il est question d'attaques terroristes contre les forces de sécurité maliennes, de trafic de migrants, de trafic de drogue ou encore de recrutement d'enfants soldats. La liste des noms cités dans ce rapport est longue. À titre d'exemple, Salah Agarmed, maire de Talataï dans la région de Gao, est présenté comme un membre éminent du HCUA, le Haut Conseil pour l'Unité de l'Azawad, mais aussi et surtout comme un agent de liaison entre les deux organisations terroristes en Sardine et État islamique dans le Grand Sahara. Problème, le HCUA est directement impliqué dans le processus de paix et de réconciliation au Mali. Pareil pour la CMA, la coordination des mouvements de l'Azawad ou la plateforme, également citée dans ce rapport. Tous ces groupes ont signé en 2015 l'accord d'Alger censé mettre fin au conflit dans le nord du pays. Le rapport cite également des groupes coopérant au processus de paix sans être signataires de l'accord. C'est le cas de la CPA, la Coalition du Peuple pour l'Azawad. Son secrétaire général, Mohamed Ousmane Agmo Mohamedoun, est accusé d'avoir très activement retardé par ses alliances sur le terrain la stabilisation de la région.
Suite logique de ce rapport, le Conseil de sécurité de l'ONU a prorogé d'un an le régime général de sanctions visant le Mali et certains individus accusés, nommément dans le rapport, pourraient être visés par des sanctions individuelles et mises à l'écart du processus politique. Florent Piton, l'insécurité grandit au Burkina Faso comme au Mali et les sanctions de l'ONU ne semblent avoir aucun impact sur les trafics en tout genre dans le nord du Mali.
La question peut-être qui se pose ici, c'est justement du lien entre des rapports, en l'occurrence un rapport ici sans doute extrêmement fouillé, et cette traduction concrète sur le terrain. Et on a observé un peu la même chose au Rwanda avant le génocide. En 93, le rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme se rend au Rwanda, fait un rapport extrêmement intéressant, extrêmement riche. Rien n'en sort, au fond.
En 1961, il y a eu des pogroms anti-Tutsi, des massacres en 63-64, suivent des purges en 1973. Est-ce qu'on peut y voir des signes annonciateurs de ce qui va se produire en 94?
Le Rwanda est indépendant en 62 et ce qui commence en 59, c'est la révolution qui précède l'indépendance. Sur ces violences anti-Tutsi antérieures, bien entendu, elles sont un élément à prendre en compte pour comprendre le génocide. Il y a une antériorité de la violence dont il faut tenir compte. Pour autant, ces violences antérieures en même temps ne sont pas le strict reflet du génocide. Ou plutôt, le génocide n'est pas le strict reflet avec une intensité supérieure de ces violences. Il faut aussi distinguer la nature, l'ampleur et les modes opératoires des violences successives. Le génocide étant le seul, enfin, il était véritable génocide de l'histoire rwandaise.
Alors vous écrivez dans votre livre, le génocide rwandais est une question française. On va rappeler donc la France de François Mitterrand soutenait le régime du président rwandais, Habyarimana, mais vous dites que contrairement à ce qu'on a souvent affirmé, cela n'avait rien à voir avec le complexe de Fashoda, et que les raisons de ce soutien étaient beaucoup plus prosaïques.
Alors bien sûr, la question linguistique, c'est un élément à prendre en compte. Mais à mon sens, c'est sûrement pas le seul, et sans doute pas le plus important, des éléments qui...
Alors la question linguistique, il faut rappeler, hein, donc le Rwanda était francophone, hein, et la France de François Mitterrand redoutait que les anglo-saxons ne mettent la main sur le Rwanda.
Sur le Rwanda, par l'intermédiaire du Front Patriotique rwandais, du FPR, tout à fait.
Dont les principaux dirigeants avaient vécu en exil en Ouganda.
En Ouganda
anglophone.
Et sont donc anglophones, tout à fait. Alors cette question linguistique, elle est importante, mais ce n'est pas les seuls éléments. Et parmi les autres éléments dont il faut tenir compte, bon, il y a question des ressources, mais aussi une question peut-être idéologique, le terme est un peu fort, mais intellectuelle. Et notamment une forme d'adhésion de certains milieux décisionnels français à cette idée que le pouvoir au Rwanda, le pouvoir strictement Hutu, était légitime parce qu'il représentait la majorité. Et en cela, ça se rapproche des discours racialistes. Au Rwanda même.
On peut rappeler la proportion de Hutu par rapport aux Tutsi en 94?
Alors les chiffres eux-mêmes font l'objet de discussions, mais si je simplifie, les Hutus représentent à peu près 85%, représenteraient 85% de la population, les Tutsi à peu près 14% et les Twa 1%. Mais ce sont bien sûr des ordres de grandeur qui sont, je le répète, des constructions historiques qu'il ne faut pas prendre comme argent comptant.
Alors vous citez une note, par exemple, une note du 29 avril 1994, signée du général Kenno, le chef d'état-major particulier du président Mitterrand. Il parle du FPR comme du parti le plus fasciste qu'il ait jamais rencontré. Il utilise le terme de Khmer noir qui essaierait de créer un Tutsiland. Tutsiland, c'est la doctrine Védrine, ce que vous appelez la doctrine Védrine. Hubert Védrine qui était alors secrétaire général de l'Élysée.
La grande crainte au sein donc de certains milieux décisionnels français, notamment à l'Élysée, c'est que par le biais du FPR, les Tutsis prennent la main dans la région et créent donc un pouvoir uniquement Tutsi, forcément illégitime, puisque représentant une minorité. Et c'est ça que révèlent les propos du général Kenno, propos qui, par ailleurs, font écho à d'autres propos tenus bien avant par certains extrémistes hutus au Rwanda même.
Illustration du soutien français aux forces armées rwandaises, les livraisons d'armes qui ont continué après l'embargo prononcé par l'ONU le 17 mai, d'où l'ambiguïté qui a entouré l'opération turquoise, opération humanitaire qui débute le 23 juin, opération humanitaire entre guillemets, Florent Piton.
Alors, les travaux sur cette question, bien sûr, sont encore peu nombreux. Donc, les conclusions difficile à arrêter en tant que tel. Mais il semblerait que dans l'histoire de l'opération turquoise, il y ait eu deux temps. Dans un premier temps, l'opération turquoise ne semble pas être véritablement une opération humanitaire, mais plutôt une forme d'opération visant à rétablir l'équilibre dans le conflit entre le Front patriotique rwandais et l'armée rwandaise, une forme de soutien déguisé, implicite, à l'armée rwandaise dans son combat contre le FPR. Armée rwandaise impliquée dans le génocide.
Et vous reproduisez un extrait du Conseil des ministres du 22 juin avec l'intervention d'Alain Juppé qui schématiquement renvoie dos à dos Hutu et Tutsi.
On a une lecture, encore à la fin du mois de juin en France, de ce qui se passe au Rwanda en termes de conflit interethnique. Une expression qui ne veut rien dire en réalité.
Sept jours en France. Coup de tonnerre mardi matin dans le ciel politique français, la voix blanche, les larmes aux yeux. Nicolas Hulot annonce chez nos confrères de France Inter qu'il quitte le gouvernement.
Je vais prendre pour la première fois la décision la plus difficile de ma vie. Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Et donc je prends la décision de quitter le gouvernement. Aujourd'hui.
On savait depuis des mois que le ministre de la Transition écologique avait des états d'âme, mais sa démission surprise a fait l'effet d'un électrochoc. Nicolas Hulot était l'un des ministres les plus populaires et une belle prise pour Emmanuel Macron. Son départ est un coup dur pour l'exécutif qui a tenté toute la journée de dédramatiser l'événement. Anthony Latier.
J'ai choisi Nicolas Hulot parce que c'est un homme libre et je respecte sa liberté. Emmanuel Macron ne manifeste en public aucune colère, aucune rancœur à l'égard de celui qui pourtant ne l'a pas prévenu de sa décision et qui gâche sa rentrée. Depuis le Danemark, le président affiche sa sérénité alors qu'à Paris, son premier ministre Édouard Philippe se présente souriant et décontracté devant les caméras. La stratégie de communication du pouvoir est claire, il faut dédramatiser, réduire cette décision à un choix intime et ne pas tomber dans l'affolement. Dans l'entourage du président, on rend même hommage au travail du ministre. Nicolas Hulot peut être fier de son bilan, dit-on à l'Élysée. Il n'empêche, le coup est rude pour l'exécutif, dont Nicolas Hulot remet en cause les convictions écologiques. Un mois après l'affaire Benalla, c'est une nouvelle séquence de crise qui s'est ouverte. Emmanuel Macron va devoir remanier de façon imprévue, mais ne pourra pas le faire tout de suite. Il est à l'étranger jusqu'à jeudi soir.
La démission fracassante de Nicolas Hulot a ajouté du grain à moudre pour l'opposition qui venait de faire sa rentrée avec en chef de file Jean-Luc Mélenchon. Le leader de la France insoumise a galvanisé ses troupes lors de l'université d'été du parti en faisant feu de tout bois sur Emmanuel Macron. À Marseille, pour RFI, Jeanne Richard.
Sur scène, un discours au ton guerrier. Jean-Luc Mélenchon lance les hostilités en vue des élections européennes de mai prochain. Et comme d'habitude, il tente d'instaurer un face-à-face avec le chef de l'État.
Nous allons faire de cette élection un référendum anti-Macron. Nous allons inviter les Français à lui mettre une raclée. C'est la démocratie. Qu'il entende le peuple français lui dire au revoir.
Et son ennemi, c'est l'Europe libérale, une Europe capitaliste de la finance, dit-il, que propose le président français, qu'il tacle au passage.
Quand nous votons contre M. Macron, nous votons contre toute la politique qu'il approuve et qu'il soutient. M. Macron est juste le petit copiste de la Commission européenne et de Mme Merkel.
Toujours en vue des élections, Jean-Luc Mélenchon est revenu longuement sur l'écologie, la crise migratoire et la renégociation des traités européens, mais aussi sur la réforme des retraites à venir.
Cette affaire des retraites, c'est la grande affaire de l'année qui vient.
Il espère mobiliser sur le sujet. Et en réaction, Christophe Castaner, patron de La République En Marche, rappelle que l'année dernière, Jean-Luc Mélenchon avait déjà appelé à manifester. Des manifestations qui avaient fait pchit, se moque-t-il sur Twitter.
Une nouvelle polémique est venue plomber la rentrée du gouvernement. Des Gaulois réfractaires au changement. Voilà comment Emmanuel Macron a parlé des Français jeudi, alors qu'il était en visite à Copenhague. Tollé immédiat dans l'opposition, Julien Chavannes.
Après les Français qui détestent les réformes prononcées il y a un an en Roumanie, c'est encore une fois de l'étranger qu'Emmanuel Macron fait une sortie sur les blocages dans son pays. Pour le patron des Républicains, Laurent Wauquiez, interrogé sur Europe 1, le président français n'est pas à la hauteur.
C'est pas à la hauteur du rôle d'un président de la République. Parce que avec la phrase qu'il fait, au fond, il alimente cette espèce de caricature absurde faite constamment sur les Français. Ça signifie qu'il n'a pas compris ce qu'était le rôle d'un président à l'international.
À gauche, la France insoumise dénonce, elle, le mépris du chef de l'État. Le député Éric Coquerel y voit aussi une façon de détourner l'attention des Français des difficultés de l'exécutif.
C'est peut-être une provocation pour faire oublier la démission de Nicolas Hulot, mais je ne pense pas que les gens vont l'oublier et oublier les raisons pour lesquelles il est démissionné. Il y a une façon qu'a Emmanuel Macron de toujours transgresser, et je ne crois pas qu'à terme ça va lui porter chance.
Contre-feu ou pas, Emmanuel Macron parle ce matin d'un simple trait d'humour. Pas sûr que les syndicats qui défilent dans le bureau d'Édouard Philippe pour négocier la réforme de l'assurance chômage soient du même avis.
C'est un rituel de la rentrée, le discours aux ambassadeurs français, réunis à Paris par le président de la République. L'occasion pour Emmanuel Macron de réaffirmer la position de la France sur la Syrie. Le maintien de Bachar el-Assad au pouvoir en Syrie sans perspective de solution politique serait une erreur funeste, a-t-il dit. Des propos très fermes alors que le régime de Damas, appuyé par la Russie et l'Iran, s'apprête à reprendre Idleb, la dernière poche de résistance djihadiste. Nicolas Falaise.
Dès son élection l'année dernière, Emmanuel Macron a déclaré que le départ de Bachar el-Assad n'était plus un préalable à une solution politique négociée en Syrie. Plus récemment, la France s'est entendue avec la Russie, puissante alliée du régime de Damas, pour livrer de l'aide humanitaire aux Syriens. Ces évolutions annoncent-elles un changement plus profond de la position française ? Emmanuel Macron a signifié le contraire ce lundi en rejetant le scénario qui verrait Bachar el-Assad rester au pouvoir sans entrer dans une négociation politique. La France continue donc de plaider pour une réforme de la Constitution et pour l'organisation d'élections. Les Syriens qui ont fui leur pays devront pouvoir y participer.
Qui a provoqué ces millions de réfugiés ? Qui a massacré son propre peuple ? Il n'appartient pas à la France de désigner les futurs dirigeants de la Syrie, pas plus qu'à un autre pays. Mais c'est notre devoir et notre intérêt de nous assurer que le peuple syrien sera bien en situation de le faire.
Sans processus politique, pas question de participer financièrement à la reconstruction en Syrie, laisse entendre Emmanuel Macron, qui a récemment nommé un représentant personnel pour la Syrie. Il s'agit de François Sénémo, ancien des services de renseignement et ancien ambassadeur de France en Iran.
RFI. Florent Piton, je reviens à votre livre, Le génocide des Tutsis du Rwanda, aux éditions La Découverte. Vous ne prenez pas position sur ce qu'on présente comme, ou sur ce qu'on a souvent présenté comme l'élément déclencheur du génocide, les deux missiles qui ont abattu le 6 avril 1994 l'avion transportant le président Hutu à Biarimana. Vous rappelez qu'il y a eu plusieurs thèses, dont celle incriminant le FPR et son chef, Paul Kagame. Mais vous estimez quand même que la thèse la plus plausible est celle des juges du tribunal de grande instance de Paris en janvier 2012.
En fait, cette enquête de 2012, elle n'identifie pas les responsables de l'attentat, elle émet des hypothèses sur le lieu d'où ont été tirés les missiles, en l'occurrence un camp militaire de la gendarmerie. Et donc on ne peut pas en tirer une conclusion définitive sur les auteurs de l'attentat. De toute façon, cet attentat ne constitue pas l'alpha et l'oméga, comme je le dis dans le livre, du génocide, et n'en est qu'un événement déclencheur. Ce qui explique le génocide, c'est le racisme, c'est les structures de mobilisation de la population, et ce n'est pas la mort du président de la République au soir du 6 avril.
Oui, ce que vous démontrez, c'est que ce génocide des Tutsis a été planifié, organisé soigneusement par les éléments les plus extrémistes du régime Hutu, qui n'avaient pas du tout envie du partage du pouvoir prévu par les accords d'Arusha.
Le génocide est, pour le dire clairement, une forme d'outil politique. Et donc, il n'est pas le résultat d'une fureur, d'une colère de la population civile qui aurait dépassé les autorités politiques. Les autorités politiques sont bien à la manœuvre.
Florent, il y a une question épineuse, c'est celle de la justice après le génocide. Les prisons étaient pleines, il aurait fallu plus d'un siècle pour traduire devant la justice ordinaire les suspects impliqués à divers degrés. Le gouvernement rwandais décide alors de recourir au gacaca, les tribunaux traditionnels. Est-ce que cette justice transitionnelle a bien fonctionné?
Cette justice transitionnelle, elle a fait l'objet de critiques. De critiques qui ont émané d'ailleurs de plusieurs bords. Au départ, les rescapés eux-mêmes n'y étaient pas spécialement favorables parce qu'ils y ont pu y voir, pour certains d'entre eux, une forme d'amnistie déguisée pour les tueurs. Puis ensuite, il y a eu des critiques émises par la communauté internationale, par des observateurs étrangers. Au-delà de ces critiques, il me paraît que les gacaca, et ça c'est intéressant, ont été un moyen de faire émerger une certaine vérité sur le génocide. Et en cela, elles ont plutôt fonctionné.
L'idée, c'était qu'en échange de leurs aveux et de leur repentir, les accusés se voyaient infliger des peines plus clémentes.
Dans les gacaca, il y a en fait une échelle des peines établie en fonction de la nature des crimes et en fonction du fait que les accusés ont ou non avoué leurs crimes avant même leur procès. Ils bénéficient de réductions de peine, en l'occurrence.
Alors parallèlement, il y a eu la création en Tanzanie du TPIR, hein, le Tribunal International pour le Rwanda. Le TPIR qui a également été très critiqué, à la fois par le gouvernement de Kigali et par les associations de rescapés. Est-ce que c'est à juste titre ?
Le TPIR a été critiqué pour son incapacité à établir en profondeur la dimension organisée, ou plutôt la dimension planifié du génocide, pour son incapacité, en l'occurrence, à condamner un certain nombre d'accusés pour entente en vue de commettre le génocide. Et une des causes qui peut expliquer ce phénomène, c'est la couverture temporelle des faits examinés par le TPIR. En s'empêchant d'examiner ce qui était antérieur à 1994, le TPIR n'a peut-être pas complètement pris la mesure de la dimension planifiée, organisée du génocide.
Alors, un certain nombre de Rwandais soupçonnés de génocide et réfugiés à l'étranger ont été jugés dans des pays tiers au nom de la compétence universelle. Est-ce qu'on peut dire que la justice française a fait preuve d'une lenteur suspecte ?
La justice française a été pour le moins longue. Le premier procès a eu lieu en 2014. Et il faut rappeler que la France avait été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme en 2004 pour la lenteur des procédures en cours.
Et d'autres procès sont encore prévus ?
A priori, on devrait avoir dans les mois qui viennent d'autres renvois aux assises pour des Rwandais réfugiés en France, oui.
Une loi interdit désormais au Rwanda de parler des Hutus et des Tutsis, mais chacun sait qui est qui et qui a fait quoi. Victimes et bourreaux, vous l'avez dit tout à l'heure, cohabitent. Est-ce que les victimes ont pardonné ? Est-ce qu'on peut parler de résilience, de réconciliation nationale ? Ou est-ce que les rancœurs, des deux côtés d'ailleurs, ont été mises sous le tapis jusqu'à la prochaine tragédie ?
La politique de réconciliation, c'est quelque chose de très important au Rwanda. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans les commémorations, il y a une mise en scène de cette réconciliation régulière, où on fait venir des rescapés et les bourreaux de leur famille pour mettre en scène la réconciliation entre les Rwandais. Pour autant, est-ce que dans l'intimité des cœurs, il y a véritablement réconciliation ? C'est une autre question qui est difficile à trancher.
Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, quand vous avez parlé avec les rescapés ? Est-ce que c'est une réconciliation de façade ?
Je pense que les choses sont en réalité plus complexes. Parler de réconciliation de façade, c'est sûrement réducteur. Et tout en même temps, expliquer que les Rwandais vivent désormais en complète harmonie est réducteur aussi.
Florent Piton, vous citez des enquêtes de la Commission nationale pour l'unité et la réconciliation rwandaise. Et en 2010, à la question « Si les conditions étaient favorables, seriez-vous prêt à commettre à nouveau le génocide ?» 40% des personnes répondent oui. En 2015, même question, 29% des personnes répondent qu'elles sont tout à fait d'accord, et 19% plutôt d'accord. Quand le gouvernement rwandais estime le pays pacifié, on a l'impression qu'on est un peu loin du compte.
Ces chiffres, ils sont extrêmement intéressants. D'abord parce qu'ils montrent que le gouvernement rwandais produit des données qui, à certains égards, vont à l'encontre du discours que l'on entend le plus souvent. Et surtout, ces chiffres, ils montrent aussi qu'il y a toujours au Rwanda, pour les rescapés notamment, une menace persistante ressentie. Et ça se voit dans ces enquêtes, mais ça se voit aussi dans les actes dont les rescapés sont effectivement victimes de moqueries, de brimades et de violences parfois.
Et est-ce que ce ressentiment caché, vous pensez qu'il existe aussi côté Hutu ?
Ben justement, en fait, je ne pense pas qu'on puisse penser la société rwandaise aujourd'hui en termes de Hutu versus Tutsi, Hutu contre Tutsi. Il y a des communautés Tutsi qui sont extrêmement diversifiées. C'est pas la même chose d'être un rescapé du génocide qui vivait au Rwanda en 94 et d'être un exilé revenu après 94. Et au même titre que les Hutus ne forment pas un tout uniforme. C'est pas la même chose d'être d'avoir été condamné pour génocide, d'avoir eu des membres de sa famille condamnés pour génocide, ou au contraire, de n'avoir eu strictement aucune implication dans le génocide.
Merci Florent Piton d'avoir été notre invité. Je renvoie nos auditeurs à votre livre, Le génocide des Tutsis du Rwanda, qui vient de sortir aux éditions La Découverte. Merci à Sophie Janin qui a réalisé cette émission. On se quitte avec un chant de deuil que vous avez choisi. Florent, je vous laisse le soin de prononcer le titre.
Boupfoubi de Cécile Kairemgwa.
Bonne semaine à tous.
Uzumbe jima uranyorosh na yari kuro.